Bienvenue à cette deuxième partie du discours. Pendant notre petit yatra m'est revenue une histoire que j'ai vécue quand j'étais en Inde. Donc j'ai passé pas mal de temps en Inde, j'ai habité là-bas. Et une partie de ma pratique, qui était même ma pratique avant que je rencontre des méditations, des traditions de méditation qui vraiment m'intéressent, j'en avais déjà visité. Mais qui vraiment m'intéresse et avec qui j'ai commencé à beaucoup pratiquer. J'avais une pratique qui était de marcher dans l'Himalaya, dans les contreforts de l'Himalaya. J'allais pas là où il y avait de la neige et tout ça. Comme ça, j'étais assez indépendant. En fait, j'avais mon sac à dos et je mettais de quoi manger. Puis j'allais à gauche, à droite, j'allais d'une crête à l'autre. Je me disais, tiens, je vais aller plutôt là-bas ou je vais aller plutôt là-bas. Je dormais là où j'étais. Et en fait, j'ai fait ça assez souvent. Pendant 2-3 ans. Et la sensation que j'ai, c'est que j'essayais quelque part de me perdre, mais de perdre une partie de moi-même. J'essayais en fait d'aller toujours plus loin. C'était ça ma démarche, même quand j'ai été en Inde et quitté mon contexte, mon monde, pour voir comment j'étais en dehors de mes habitudes, comment j'étais en dehors de mon contexte. Et puis quand j'étais en Inde, ben, j'étais quand même encore assez bien dans mon contexte d'une certaine manière, parce que j'étais beaucoup avec des Occidentaux et tout ça, donc j'ai essayé, là je partais dans les montagnes pour ne plus être être le plus loin possible de mon contexte, et quelque part j'ai essayé de me désorienter pour me trouver. C'était peut-être pas dit aussi clairement à l'intérieur de moi-même, mais quand je regarde en fait j'ai vraiment l'impression que c'était ça, de me désorienter pour trouver mon Orient. Et je me rappelle d'une fois où, là, je venais de revenir de France et ça faisait pas longtemps que j'étais en Inde. Et je suis parti, j'ai commencé à marcher. Et en fait, j'avais tout le temps, pendant les premiers jours, des images de ma mère qui était morte ou des pensées de la mort de ma mère. Et ça revenait encore et encore et encore. Et c'était présent pendant, c'est presque, je me sentais envahi. Pendant mes journées, mes pensées revenaient toujours à ça. Et je me voyais devoir rentrer. J'avais toutes des histoires qui se construisaient autour de ça. Ce que je dirais aux funérailles et tout. Enfin, ça tournait là-dedans tout le temps. Et au bout de 3 jours, je crois, ça devenait vraiment lourd et envahissant. Et puis j'avais de plus en plus une crainte, en fait, que ça soit comme une prémonition de quelque chose qui se passe et que peut-être je devrais téléphoner. C'était une époque où ce n'était pas encore facile de téléphoner depuis l'Himalaya, où voilà, il n'y avait pas beaucoup de téléphones et de lignes internationales. Et donc je considérais vraiment, en fait, arrêter ma marche, retourner à une ville pour pouvoir appeler, pour voir un peu ce qui se passe. Et là, ce soir-là, je trouve un endroit, c'était une grotte, il y en a plein dans l'Himalaya qui ont été aménagées pour des retraites, pour des sadhus, des ermites. Et celle-là était inhabitée. Et j'ai appris après qu'elle était assez connue, qu'il y avait eu un ermite assez célèbre, en fait, dans cette grotte. Et ce qu'elle avait de bien, cette grotte, j'en ai fait un dessin, c'était un très très gros rocher, en fait, qui était posé sur un autre rocher, et du coup ça faisait un espace en dessous. Et l'espace avait été, il y avait juste un endroit qui avait été aplani pour là où je pouvais me coucher. Et il y avait, donc l'ermite, il avait construit des petits murs en terre, et il y avait même une porte. Et de l'intérieur, avec une barre, ça pouvait se fermer. Et donc je m'installe, je fais à manger, et puis je m'installe dans cette grotte. Et là, je me couche sur le seul endroit où il y a moyen de s'allonger, tout le reste était trop bosselé. Et là, je me sens bien, je pense aussi, parce que comme la porte est fermée, je me sens en sécurité, parce que souvent, je confrontais des peurs, et de dormir dehors, et de mauvaises rencontres. Et là, je me sentais vraiment en sécurité, j'ai senti quelque chose qui se posait. Et puis, il y a eu, c'était un très bon moment, en fait, il y a eu comme une clarté qui s'est installée dans mon esprit, et j'ai eu l'impression, alors j'y ai plusieurs fois réfléchi, et je ne sais toujours pas maintenant comment comprendre ça, mais j'ai vraiment eu l'impression d'être en contact avec cet ermite qui avait vécu dans cette grotte. Et j'avais l'impression d'être en discussion, et que je pouvais même poser des questions, et tout était très clair en fait. Et la première chose donc que cette voix dans ma tête me dit, c'est il n'y a aucun problème avec ta mère. C'est juste toi qui te détaches. Et c'est pour ça que tu as ces images de mort, en fait. Parce que c'est toi qui te détaches de ta mère, en fait. C'était très touchant et c'était très clair. Et c'était tellement, je veux dire, l'atmosphère dans laquelle j'étais à ce moment-là était tellement particulière que pour moi, c'était une évidence. Il n'y avait plus du tout la nécessité de courir à une ville et de téléphoner pour voir ce qui se passait. C'était évident que c'était ça. Et je sentais à l'intérieur de moi, en fait, que c'était ma relation à ma mère qui changeait et que j'étais en train, comme un serpent qui mue, de laisser cette ancienne peau qui me protégeait et pour passer à une nouvelle peau quelque part. Et du coup, cette transformation passait à travers toutes ces images en fait de mort. Et voilà, ça a été un moment qui a été très important pour moi parce que déjà dans cette notion de transformation et de voir aussi, du coup, ça me disait que cette pratique que j'avais de marcher comme ça et de me désorienter fonctionnait. Parce qu'en fait, c'est ce que je cherchais, c'était quelque part à me transformer, à me libérer. Et en fait, aussi, ce qui était très important, c'est que ça a fait partie des différents moments où j'ai abordé la mort, qui est quand même un thème de la vie qui est très, très important et qui est pas évident à aborder et qui est très tabou, spécialement chez nous. Et que donc, en fait, un thème qu'on n'aborde pas énormément. C'est un peu le thème qu'on a abordé au discours précédent, sans le nommer, quand on parlait on a parlé à un moment de la cessation, par exemple. La cessation, c'est la cessation de toute une partie de ce qu'on est, de toute une partie de ce pourquoi on a construit. Quand on dit en méditation, qu'en méditation, on doit laisser de côté toute cette construction de l'ego, comme je l'ai appelé à un moment, mais dans le sens positif, la construction de l'identité, comme il est demandé à un enfant de faire, et comme nous aussi, jusque maintenant, on continue à faire, en fait. Mais en méditation, il nous est demandé, en fait, de considérer ça comme, il me vient en anglais le mot, irrelevant, donc non voulu. C'est pas du tout ça qu'on veut, c'est pas du tout cette identité-là. En fait, on la délaisse, on décide consciemment de délaisser cette identité à laquelle on bosse constamment depuis qu'on est gamin. Et de lui dire, ce n'est pas en investissant plus de ton côté que je vais trouver ce que je cherche dans ma quête spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus investir de ce côté-là, je suis très précautionneux toujours. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus investir de ce côté-là parce que c'est très important. Pas de déni de ce côté-là. Mais dans le cadre de la quête spirituelle, de cet tout autre, parce qu'on cherche ce qu'on cherche, c'est tout autre. Dans le cadre de cette quête spirituelle, ce n'est pas dans cette direction-là qu'on décide d'investir. Et dans notre méditation, de façon très pratique, c'est pour ça qu'on décide de délaisser la pensée et toutes les constructions de l'identité qui vont avec. On décide de ne plus investir là-bas. Aucun intérêt, zéro. Et si on arrivait à passer d'un à l'autre, c'est-à-dire à ne plus avoir du tout d'intérêt pour tout ce monde du construit et pour toutes nos différentes identités qui sont développées en fonction de nos amitiés, de notre travail, de notre contexte social, de notre contexte familial, de notre relation à nous-mêmes, tout ça, toute l'histoire, plus aucun intérêt, zéro, rien du tout. À ce moment-là, on ferait l'expérience d'une grande paix de l'esprit. Parce que qu'est-ce qui viendrait l'agiter? Qu'est-ce qui viendrait l'agiter? Mais ça veut dire accepter de mourir à cette identité. Ça veut dire, quelque part, ça veut dire accepter la mort. On ne sait pas trop ce que ça veut dire vraiment, la mort ultime, mais là, c'est accepter la mort, en tout cas, de toute cette identité dans laquelle on a investi encore et encore et encore, et dans laquelle on a toujours entendu dire que si elle était bien fabriquée, si elle était solide, et si elle était faite comme ceci, et comme cela, et comme ceci, et comme cela, alors on serait heureux. Si on avait réussi à se construire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, à acquérir ceci, cela, à devenir ceci, cela, alors on avait une chance d'avoir accès au bonheur. Hein, c'est ce qu'on a reçu comme enseignement. Et du coup, bah ouais, c'est pas étonnant qu'il y ait un investissement d'énergie et d'attention donné qui est énorme à tout ce monde. Et c'est pas étonnant quand on essaie d'apaiser un peu la pensée, et ben elle revient et elle fait non, non, non. Et là, il y a ça, et là, il y a ça, et là, il y a ça. Et hop, notre attention est reprise et on repart en vadrouille. Donc ça passe par l'acceptation de la mort et quelque part, c'était déjà ce thème-là dans cette expérience, dans une de mes randonnée dans l'Himalaya, c'était déjà ce thème-là qui m'était donné de contempler et qui dans les recherches spirituelles, c'est un thème qui revient heureusement, souvent parce qu'il est nécessaire. On peut, donc acceptation de la mort, on peut aussi l'appeler détachement. On entend parler de ce thème détachement. Je me rappelle quand j'entendais parler du bouddhisme quand j'avais 15 ans, 16 ans, je me rappelle de discussions où il y a des gens qui disaient, oui, mais le bouddhisme, le détachement et tout ça, du coup, tu fais plus attention. En fait, c'est très égoïste. Le bouddhisme, parce que c'est le détachement, du coup, détachement de tes amis, détachement de ta famille, détachement de la situation du monde et tout ça. En fait, tu te soucies plus de rien. Hein, c'était une compréhension extrêmement superficielle, en fait, de ce que veut dire le terme de détachement. Parce que j'ai l'impression, moi, que c'est l'effet inverse que ça fait. Et c'est que quand enfin on réussit à se détacher, alors on peut être proche. C'est bizarre, hein? Mais par exemple, je le vois par rapport à la relation que j'ai avec ma mère, où je me sens extrêmement proche, mais j'ai été loin dans la nécessité de prendre de la distance physique et intérieure. Et grâce à mon cheminement, je me suis suffisamment détaché pour vraiment pouvoir me sentir proche sans que ça soit une obligation, sans que je me sente envahi, mais parce que, par amour, parce que je peux vraiment l'aimer, parce que je m'en suis suffisamment détaché, sinon c'est pas de l'amour. Sinon c'est pas une décision, c'est une impossibilité de faire autrement. C'est pas la même chose. Et je vois des amis, j'ai un ami en tête là qui en fait n'est pas du tout détaché de sa mère, et bizarrement, en fait, ne passe jamais du temps avec elle. Parce que justement, ce détachement ne s'est pas suffisamment fait. Et donc, cette manière d'aborder la mort et toutes les petites morts, hein, parce que ce que j'ai vécu finalement, c'est une petite mort. Et chaque moment, en fait, petite mort, c'est chaque moment où on accepte de laisser partir quelque chose qui est important pour nous. Et donc, en méditation, quand on a une idée qui est très importante, qui nous semble très importante parce qu'elle fait vraiment partie de notre identité et qu'on la laisse partir, c'est aussi à un moment une petite mort. Et là, c'était une petite mort peut-être un peu plus grosse pour moi à ce moment-là. C'est 3 jours où j'avais tout le temps ces pensées, tout ça, mais en fait, c'était une petite mort. Et peut-être que ça prépare à ce qu'on pourrait imaginer être la grande mort, qui est le moment où en fait, c'est tout d'un coup qu'on laisse partir là. C'est pas juste. Ses parents, mais c'est aussi sa famille, mais c'est aussi ses amis, mais c'est aussi ses habitudes, mais c'est aussi tout ce qu'on a construit matériellement, les positions qu'on a acquises, et la relation à notre corps, et les qualités qu'on a développées. C'est, en fait, c'est tout le contexte de notre vie. On ne sait pas si c'est notre vie qui s'en va, mais le contexte de notre vie s'en va. Et il faut pouvoir le lâcher. Pour bien le vivre, il faut pouvoir le lâcher. J'imagine, il faut être à l'aise avec la possibilité de le lâcher. Il faut être en confiance, en fait. Et dans certaines traditions, c'est de cette façon-là qu'on définit la méditation. C'est comme un apprentissage à mourir. À mourir dans le sens, je l'entends en tout cas, dans le sens, un apprentissage à laisser partir tout ce qui s'est construit dans le temps et qui, du coup, un jour disparaîtra. Un apprentissage à ne plus investir à tout ce qui s'est construit dans le temps, tout ce qui dépend. Une citation du Diwan de Rumi. Tu es amoureux de Dieu, et Dieu est tel que, quand il vient, plus un seul de tes cheveux ne demeure. Sa vue anéantie sans être telle que toi. Serais-tu amoureux de ta propre négation, l'ami? Tu es une ombre amoureuse du soleil. Le soleil paraît et l'ombre est aussitôt anéantie. Je relis la première phrase. Tu es un amoureux de Dieu et Dieu est tel que quand il vient, plus un seul de tes cheveux ne demeure. La manière dont je l'entends, c'est donc encore et toujours, c'est vraiment le thème central, je pense, de ce qui m'intéresse en méditation, c'est le fait que dans la recherche de juste être, dans la recherche de cet état de soi-même dans lequel plus rien ne bouge, à ce moment-là, tout ce qui est identitaire, personnel, individuel n'apparaît plus. il n'y a plus assez de mouvement, il n'y a plus assez de temps, il n'y a plus pour qu'il y ait du mouvement. Et il n'y a pas, c'est pas, pas besoin d'une expérience transcendante. On peut voir cette déconstruction. On peut voir que moins il y a de jeu, de moi, de mon identité, de mes projets, de ceci, de cela. Hein, quand on s'assoit, parfois il y a beaucoup de ça dans la méditation, et quand ça se pose peu à peu, il y a plus de silence, il y a plus de vaste. C'est antinomique en fait. C'est-à-dire que plus il va y avoir de non-mouvement, d'une sensation vraiment de présence, moins il va y avoir cette identité habituelle. Et si on dit que cette sensation de présence qu'on va avoir tendance à appeler ma présence, mais en fait on n'en sait rien, c'est une présence. Hein, parce que y a plus, parfois, il n'y a plus suffisamment d'identité, même pour dire je suis présent, je suis concentré, je médite. Y a juste une sensation très forte d'être présent, mais il n'y a plus assez d'activité mentale pour s'imaginer être en train de méditer et se sentir être présent et se dire ça y est, enfin, j'y suis, je suis bien concentré, je sens tout mon inspire et je sens tout mon expire. Tout ça n'existe plus. Il y a une sensation d'être présent. Ce n'est pas fantasmagorique, c'est n'en faites pas quelque chose d'inaccessible. C'est juste à observer et à reconnaître, parce que souvent ça nous échappe, parce que c'est fin. Dans ce moment-là, plus un seul de nos cheveux n'existe. Je pense, je l'interprète comme ça. C'est-à-dire notre identité, notre spécificité, notre individualité n'est pas présente. J'avais déjà aborder ça différemment avec la musique. J'ai étudié la musique classique en Inde. J'ai étudié une dizaine d'années les tablas. Et je jouais parfois des tablas pendant que je faisais des retraites de méditation. On me donnait même toujours un petit kuti, une petite cabane un peu à l'écart. Parce que j'étais dans une tradition, en fait, c'était bienvenu de jouer de la musique pendant les retraites de méditation. C'était très ouvert. C'était pas partout. Et du coup, je méditais, puis je jouais, je voyais l'impact de la méditation sur l'improvisation, sur la spontanéité. Et en fait, je me rendais compte que j'avais écrit même pauvre musicien, toi qui t'entraînes tellement à la musique, le jour où la musique apparaît vraiment, tu n'es pas là. Et c'était une sensation en fait que j'avais eue, que les grands moments de musique, il y avait une absence de toute une partie de moi-même, en fait, qui avait permis ce grand moment. C'était antinomique. À partir du moment où je suis très conscient de moi en train de jouer, à ce moment-là, vraiment, cette dimension tout autre de la musique ne pouvait pas se produire. Et en méditation, c'est pareil. Tu es une ombre amoureuse du soleil. Le soleil paraît et l'ombre est aussitôt anéantie. On vient à la méditation parfois avec la sensation qu'on va y arriver. Et c'est bien, parce qu'on a besoin de cet enthousiasme et de cette envie d'y arriver. Tout ça, ça participe. Mais en fait, le moment où il y a vraiment, vraiment, la méditation est là, alors nous, on n'est plus vraiment là. Dès qu'on a la sensation j'y arrive, on n'est plus dedans vraiment. Dès que le silence se présente et qu'on fait ah, enfin, ça y est, déjà, c'est plus pareil. On peut pas être là quand il y a le silence, en fait. Donc, il faut accepter de disparaître. C'est chaud. Ça se travaille. La compréhension est nécessaire d'aborder la mort est nécessaire. Dans le bouddhisme, il y a beaucoup de pratiques, en fait, autour de la mort. Des visualisations et des réflexions. Des réflexions, des visualisations. Des visualisations, par exemple, très très décrites, vous devriez dire ça, hein, sur comment on imagine son corps sous la terre, et puis comment, couche par couche, il est désagrégé, mangé par les vers, et c'est très décrit. Toutes les couches. Et vraiment, c'est une méditation dans laquelle il faut beaucoup de concentration, et il faut réussir à s'imaginer tout ça. Hein, de manière à devenir peu à peu familial avec la mort. Alors nous, ça nous semble un peu bizarre, ça, parce que nous, on est dans un monde où la mort, c'est très problématique. On a une idée de la mort. Je me demande pourquoi on a cette idée-là. Je me posais la question tout à l'heure. On a une idée morbide de la mort. C'est pas, est-ce obligatoire? Est-ce obligatoire et est-ce une bonne idée d'avoir une idée comme ça? Parce que ça nous met une tension quand même. ça nous met une tension énorme, en fait, sur la manière dont on vit. Parce que, comme c'est Léonard de Vinci qui disait, toute ma vie, j'ai cru que j'apprenais à vivre, alors qu'en fait, je n'apprenais qu'à mourir. Et c'est ça. On apprend, en fait. On apprend à lâcher, on apprend à lâcher. Mais on a cette idée de la mort qui crée une tension énorme. Mais en fait, ça nous vient d'où que la mort, c'est morbide? Alors, est-ce que ça nous vient de notre tristesse? Parce que quand on perd quelqu'un, nous, on est triste, mais la personne qui est morte, c'est pas sûr. Mais c'est vrai, c'est pas sûr. Alors nous, ça se comprend, on en a tous fait l'expérience et on le comprend. Mais pour la personne qui est morte, on ne connaît pas l'expérience. On a au contraire des retours de plus en plus fournis de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente et qui disent, c'était super. C'est vrai, hein? Et qui disent, j'avais même pas envie de revenir. Et il y en a quand même pas mal des expériences comme ça. Et puis moi, parfois, quand j'envisage la mort, quand je sens la mort, ah, ça fait ah, il y a une notion de soulagement aussi. Et alors, est-ce que c'est la peur de la douleur du moment avant? Est-ce que c'est la peur de l'inconnu? Je ne sais pas exactement à quoi attribuer, mais je trouve dommage qu'on ait cette vision si négative. En fait, et pour une, peut-être parce qu'on est une société matérialiste aussi, et que du coup la mort est un échec, et puis parce que la mort est la cessation de tout, alors qu'en fait on n'en sait rien, c'est un parti pris. Hein, parce qu'on est matérialiste, donc on imagine qu'on est un corps qui. On imagine qu'on est juste un corps, alors que les sociétés spirituelles vont imaginer qu'elles sont un esprit qui prend un corps. Nous, on imagine qu'on a un corps qui a un esprit quelque part. Hein? Les neuroscientifiques, pour le moment, à 98%, je disais, pensent que la conscience est un produit de l'activité de la totalité du cerveau. Voilà. Il y a 2% qui sont d'ailleurs appelés les post-matérialistes. Et qui, eux, pensent que la conscience est quelque chose qui préexiste le cerveau et que le cerveau est une machinerie capable, en fait, de recevoir. Hein, comme l'ordinateur est capable de recevoir Internet. Un peu. Hein. Internet n'est pas contenu dans l'ordinateur. Un peu cette idée-là. Donc, mais nous, en tant que monde extrêmement matérialiste, on a du coup. Probablement, ça influe énormément sur notre relation à la mort, parce que là, c'est sûr que là, on peut le constater. Par contre, la matière arrive à la fin de son temps, la matière du corps, y compris la matière cérébrale. En tout cas, je pense que dans notre recherche de liberté, dans notre recherche de justesse, dans notre recherche de ne plus créer de souffrance pour nous-mêmes et pour notre entourage, on est obligé de contempler la mort, notre propre mort et la réalité de la mort d'une façon générale. On ne peut pas la laisser comme ça de côté et faire comme si ça n'existait pas. C'est incroyable, hein, qu'on ne soit pas plus à même d'être conscient en fait de la mort. Hein, on sait tous qu'on va mourir, mais on vit comme si on était éternel. Qu'est-ce qui disait ça? C'était pas Emmanuel Kant, c'était. Je sais plus. Et il faut vraiment du temps. Et peu à peu, en fait, l'âge aide. Hein, parce qu'on sent bien qu'on s'approche petit à petit. Et du coup, voilà, ça vient plus, on vient à le considérer, à moins que vraiment ça nous fasse trop peur et qu'on essaie toujours de regarder ailleurs, de regarder ailleurs. Hein, et ce qu'on peut faire peut-être jusqu'au dernier moment. Mais sinon, normalement, l'âge, peu à peu, nous amène déjà à lâcher. 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 Lâcher les constructions. Tu vois, les femmes en Inde, à partir d'un certain âge, même au niveau de la société, elles ont le droit de fumer dans la rue. Alors que les femmes en Inde, là, peuvent pas fumer. Mais à partir d'un certain âge, c'est OK, peuvent lâcher. Ouais, tout un tas de trucs, en fait, de ce qui est de prétendre et de l'image et tout ça, qu'à un moment, tu peux lâcher ça et tu peux lâcher. Et je pense, pour les personnes âgées aussi, peu à peu, on n'est plus autant sur l'enfant. Il y a énormément d'emphase, il faut qu'il se construise, il faut qu'il soit comme ci, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il réussisse ceci, qu'il réussisse cela. Ben, la personne âgée, elle a passé un peu cette époque-là. Elle est plus tellement à construire, à devoir réussir, et même peut-être même plus de moins en moins avoir la nécessité d'être considérée comme ceci ou comme cela, ou d'avoir une image. Donc en fait, c'est tout l'espace mental récupéré, ça. Hein, parce qu'il n'y a plus toute cette emphase tout le temps sur la construction et le. Ça amène vers de plus en plus de lâcher, en fait. Ça se déconstruit. Donc il y a toute cette période de construction, et puis après ça, il y a cette période de déconstruction. Et dans la spiritualité, il y a aussi une période, c'est pas vraiment, je dirais pas de déconstruction, c'est plutôt de réaliser que ça, c'est déconstruction. C'est-à-dire qu'à un moment, dans la spiritualité, le petit enfant, il se construit. Je vois mon fils, par exemple, il est en pleine construction, c'est normal, il a 13 ans, il est en pleine construction de lui-même, toujours le regard des autres, le regard des amis, et puis lui, il a se posé plein de questions et tout ça, c'est normal. On lui demande déjà de savoir ce qu'il va faire quand il sera plus vieux et tout ça. Donc, enfin, vraiment, c'est un moment où ça construit, mais c'est énorme. Et puis, viendra un moment où, sortant de l'unité totale du bébé dont on parlait tout à l'heure, pour devenir un être totalement indépendant et totalement se sentant totalement isolé aussi, il va falloir un moment qui l'ouvre les yeux, et c'est le travail spirituel, pour remarquer qu'en fait tout ça c'était une construction, et c'est une construction nécessaire, mais qui n'existe que à une certaine surface de mon être, comme je le disais, et que je peux lâcher de temps en temps cette construction et juste être présent sans qui est la présence de cette construction, sans qu'elle soit là, et qu'elle n'est pas toujours nécessaire. De nouveau, cette image, pour être assis dans une forêt et voir la beauté de la forêt, est-ce qu'il y a besoin d'être quelqu'un? Et les personnes âgées, peu à peu, lâchent la nécessité de construire. Et j'ai eu un beau moment, là, j'étais donc avec ma mère, justement, je suis venu vous parler de ma mère, hein. Avec ma mère, qui a 86 ans maintenant, on a été fêter nos anniversaires au restaurant, il y a 2, 3 jours, et elle me disait, maintenant qu'elle dit, quand je prends ma douche, je remercie l'eau, parce qu'elle me nettoie, et elle enlève toutes les crasses et tout, donc je la remercie. Et puis je lui parle aussi. Et puis je lui dis, je lui demande d'où elle vient, je lui demande où elle va. Et c'est des choses d'enfance, ça. Et c'est une disponibilité d'esprit. Nous, on est à une période peut-être plus. Où la douche, c'est la douche, c'est solidifier, c'est comme je disais, c'est solidifier, par facilité, on ne peut pas toujours voir la douche comme étant ceci. Enfin, on n'arriverait pas à vivre si on regardait toute chose comme ça. À un moment, une douche, ça doit être juste une douche. C'est plus facile. Et par facilité, du coup, on a isolé les choses, on les a rationalisées, on les a solidifiées. Mais là, à cette période-là, ou dans le regard spirituel, ou dans le regard du poète, eh bien, on peut à un moment re-rentrer en contact avec une douche et que ça ne soit plus une douche, que ça soit tout autre chose, en fait. Donc déjà, si on arrivait à remettre en question la notion que la mort est un problème ou que la mort est même une mauvaise nouvelle, hein, déjà on arrivait à remettre ça en question et que bah, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Nisargadatta Maharaj, un des maîtres que j'aime beaucoup, disait c'est pas important que le corps vive longtemps. Voilà, ça nous sonne bizarre à nous occidentaux. C'est pas important que le corps vive longtemps. C'est quoi cette emphase? C'est pas important. Bon voilà, pour lui c'est sa vision. Et donc si on pouvait reconsidérer en fait remettre en question le fait que la mort est morbide, que la mort est problématique, ou même que la mort est un échec, ou même que la mort est triste. Ah, triste pour nous qui restons sans la personne, eh ben, ça me paraît tout à fait naturel. Mais triste pour la personne, peut-être pas, ou triste pour nous le jour où on meurt, c'est peut-être pas triste du tout. Hein? Et si on arrivait déjà à remettre ça, je pense qu'on pourrait réintégrer un peu plus de la présence de la mort dans notre vie. Et la présence de la mort dans notre vie, ça nous rend vivants. Et ça, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais ça se voit aux enterrements. Parce que quand on est à un enterrement, souvent, eh ben, il y a une connexion humaine qu'il n'y a pas à Noël. Parfois, ça dépend. Mais souvent, dans les familles, à Noël, c'est parce que j'entends beaucoup de familles qui disent « Ah, oh, Noël, oh non, my God. Noël en famille. Oh, bon, allez, on y va. » Et en fait, un moment d'enterrement, c'est pas ça. Un moment d'enterrement, c'est pas ça. Des vraies choses se disent, une vraie proximité souvent est ressentie. Alors pas toujours, mais souvent quand même. Une authenticité est là. Parce que la conscience de la mort est là. Parce qu'on ne vit plus comme si on était des êtres éternels. La conscience, la mort est juste là à côté. Et du coup, de la garder proche, de garder la conscience de la mort proche, peut nous permettre de mieux voir la magie, l'aspect éphémère, la beauté de chaque moment, peut nous permettre en fait de nous rendre compte que ce moment est précieux. Ce moment d'être vivant, ce moment par exemple, ce moment est précieux. Et de vivre en sachant que ce moment va s'arrêter, parce que ça sera encore une petite mort, cette journée. J'espère pour vous, j'espère qu'elle est belle. Hein, pour moi, elle est belle. Et j'espère que c'est pareil pour vous. Hein. Mais ça va être fini un moment. Alors, il faut être dedans pleinement, en sachant. Ça aide d'être encore plus pleinement dedans si on sait que ça ne va pas durer. Et on peut vivre et cheminer, en fait, avec cette conscience que rien de ce dont on fait l'expérience ne va durer. Rien. Le fait que je sois intervenu à la prison de Béziers, ça m'a fait découvrir. Du coup, j'ai lu, écouté des podcasts et je suis tombé sur l'histoire d'un assez exceptionnel d'un homme. J'en ai parlé, je pense, peut-être à la dernière séance de Michel Vaujour, qui est un. Certains d'entre vous peut-être se rappellent, Michel Vaujour, qui est un homme qui s'est évadé 5 fois de prison. Et du coup, on l'entendait tout le temps aux infos. Je me rappelle quand j'étais petit, Michel Vaujour s'est encore évadé. Et en fait, il a vécu une histoire absolument incroyable. Et il a écrit un livre sur cette histoire. Donc, il n'a jamais tenu en place en prison. Et donc, du coup, il cherchait toujours à s'évader. Et un jour, il a été... À la force, il en avait marre qu'il s'évade. Et du coup, ils l'ont mis dans une cellule d'isolement. Et là, je ne sais plus si je l'ai raconté ou pas cette histoire, mais ça n'a pas d'importance. Donc, je reviens sur cette histoire alors. Donc, parce qu'elle a bien sûr un lien avec le thème de la mort. Et donc, sachant à ce moment-là que là, vraiment, là, ça n'allait plus être possible. Il n'allait pas pouvoir s'évader. Il a dit, puisqu'autour de moi, plus rien ne bouge, à l'intérieur, plus rien ne doit bouger non plus. Et il y avait une tache sur le mur et je me suis mis à regarder la tache. Et donc, il devait, en fait, pour survivre, laisser partir toute son identité, tous ses désirs, toutes ses constructions, toute sa vie, et juste être là. Et il était tombé sur des bouquins de yoga à l'époque et aussi des écrits du zen, de Maître Deshimaru, qui disait entre dans ton cercueil. Et c'est un peu cette notion-là, en fait. C'est un peu cette notion de laisser mourir toute une partie de nous-mêmes. Entrer dans notre cercueil. Méditer, c'est entrer dans notre cercueil. Mais pas... On ne peut entendre ça que si on comprend qu'il n'y a rien de morbide, en fait. C'est difficile dans notre culture. Ah, on se dit, on va rentrer dans notre cercueil quand même, il y a plus sympa à faire. Et mais ce qui est étonnant avec Michel Vaujour dans son histoire, donc là, c'est déjà là, lui, il a été très loin parce qu'à un moment, il a tellement vu clairement en fait que son pire ennemi, c'était son esprit. Hein, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Ma plus belle évasion ». Et où c'est l'évasion en fait du contrôle de son esprit, de toute cette activité en fait qui le faisait souffrir. C'était ça sa plus belle évasion. Et mais ce qui est étonnant avec Michel Vaujour, c'est que après avoir été dans cette cellule d'isolement, il a encore été transféré et tout ça, il a encore réussi à s'échapper. Il a encore réussi à s'échapper. Et là, du coup, il a refait un braquage. Ah, parce qu'il est rentré, jeune homme, pour un vol de voiture, jeune homme, comme souvent, hein, milieu défavorisé, pas d'avenir, pas d'argent, se sent enfermé, pas de futur, rien du tout, fait une connerie, se retrouve en prison pour 6 mois, ça se passe mal en prison, il ressort, il est déjà un peu durci, il fait une grosse connerie, et puis du coup, hop, il re-rentre dans cet univers très très dur, et ressort encore un peu plus déshumanisé. Et peu à peu, c'est ça, et avec la haine pour la société. Hein, c'est vraiment ce qu'il décrit. Hein. Et du coup, il se rééchappe et là, il fait un gros braquage et il prend une balle dans la tête. Et il vit une expérience de mort imminente. Et il la vit avec quand même encore à un certain moment un petit peu de conscience. Je vais vous lire ses paroles. Il la vit avec encore un petit peu de conscience. Voilà, vous allez voir ce que ça donne. Donc là, il vient de tomber, il a reçu la balle dans la tête. Un policier, alors c'était gros braquage en ville, et du coup, il y a des flics partout, et là, il y a des explosions et tout, et donc dès qu'il a la balle à la tête, en fait, il entend une voix qui perce son nouvel univers, donc, parce que là, il sent qu'il part, et qui dit, lui, c'est pas la peine, il est déjà mort. Allez voir là-bas, il y en a un autre avec une balle dans le bras. Il dit, la mort est partout en moi, elle m'épouse tout entière. Elle est mienne, je lui appartiens. Les noces se consomment et m'abandonnant à son désir, une paix sans égale m'en est offerte. Flash et sensation absolue de tout l'être. Telle une foudre de lumière et de connaissance, nous sommes un, je suis la vie. Là maintenant, il écrit. Le moment de son de, où il sort en fait de cet état, son réveil. Il est à l'hôpital. Rien, il n'y a rien, rien qu'un vide blanchâtre pour tout univers, et ma conscience s'y fond tout entière. Rien ne m'en sépare. Je suis cet univers, et le néant m'absorbe de nouveau. Puis là, il faudrait que vous le voyez, donc comment c'est écrit en. C'est une infirmière en fait qui essaie de le réveiller, qui lui dit monsieur bonjour, vous m'entendez? Monsieur bonjour, vous m'entendez? Je ne sais pas ce qui se passe, ni qui je suis, ni même ce que je suis. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Chaque particule d'instant se fait éternité. Tout en un seul instant. Là, il met un petit mot d'humour, il dit passage de la perpétuité à l'éternité. Ça, c'est parce qu'il avait pris perpétuité. Je suis partout et nulle part, je suis rien et je suis tout. Monsieur Vaujour, vous m'entendez? Monsieur Vaujour, vous m'entendez? Douce, si douce, une sirène veut établir un contact, me relier, m'aspirer, m'emporter dans son monde, me faire entrer dans le temps. Monsieur Vaujour, vous m'entendez? Une voix indistincte, murmurante, une voix d'outre-tombe, je suis si loin. Perdu dans la plénitude de la contemplation, perdu dans le souffle. Je suis ce souffle qui va et qui vient et travaille de tout son savoir pour que vive la chair, pour que la chair entre pleinement dans l'éternité, pour que la chair se fasse esprit. Je suis la béatitude. Monsieur Vaujour, vous m'entendez? A toucher. Une touche parasite mon éternité. Création d'un espace. Et cette caresse me rend une chair oubliée. Monsieur Vaujour, vous m'entendez? La voix qui revient sans cesse et sans cesse. Je n'ai pas envie de sortir, je suis si bien. Et la caresse qui accompagne chaque appel, inlassablement. Monsieur Vaujour, vous m'entendez? Sa douceur m'arrache à mon éternité. Et me rend à un corps oublié. Ma chair redevient chair. Merci pour votre écoute.